Alléluia. On est béni de la présence de Dieu. Dieu parle d'une manière, il parle d'une autre. Et nous voulons être de ceux qui prennent garde aux mots de Dieu. Amen. Par quelques notes de musique, des voix qui s'élèvent, des dons spirituels, Dieu parle, parce qu'il aime son peuple. Amen. Alors on a la joie, et pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, d'avoir Solène, Gauthier et leurs deux merveilles, pour tout ce week-end, et ce week-end va se clôturer avec ce culte-là. Et je voulais leur laisser toute la place, et en témoignant toute notre confiance et cette grâce que nous avons de les avoir. Ils opèrent dans la région parisienne, et plus encore dans le monde entier, pour bénir les églises, en tout cas l'église avec un grand E. Et ce matin, nous les avons pour nous, et c'est un honneur que Dieu mette à disposition ses outils pour le peuple de Dieu. Alors que Dieu le bénisse abondamment, nos cœurs sont ouverts. Amen.
J'ai essayé, mais... Tu vois, c'est comme ça qu'on voit que je ne suis pas de la maison. Est-ce que ça va? Ouais? Ok. Sans vous déconcentrer, regardez votre voisin, faites-lui juste un petit sourire. C'est bon de sourire dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Franchement, je veux vraiment vous bénir parce que j'ai senti vos cœurs s'élever vers Dieu ce matin. C'était exceptionnel de louer et adorer notre Dieu ensemble. La louange, c'est quelque chose de collectif et c'est bien quand ce n'est pas que les gens qui sont devant qui louent, en fait. On s'est trompé souvent en regardant les gens et en étant spectateur, alors que c'est quelque chose qu'on doit vivre et faire ensemble. Et c'est beau quand on le vit vraiment et qu'on le fait vraiment ensemble. On est très heureux d'être avec vous dans cette région qu'on m'avait vendue pas forcément chaude, sur les 3 jours, on est arrivé qu'en vendredi, hein, sur les 3 jours où on est là, il a fait une chaleur exceptionnelle. Pour la fête de la musique, on m'a fait chanter sous le cagnard de l'île Jourdain, n'est-ce pas? Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. Et je ne vais pas être long, donc j'aimerais tout de suite commencer par vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires ou pas? Ouais? Ok, d'accord. Alors, pour la petite histoire, c'est une histoire qui se passe en Afrique. C'est une histoire un peu fantastique. Vous savez, un genre un peu conte, ça veut dire que ça n'a pas existé, c'est une fiction. Okay. On est dans un village quelque part, je ne connais pas le nom du village, mais dans ce village, il y a une tradition. À un moment donné, le fils doit faire sa première chasse avec son père. Vous savez, dans ces villages où on vit de la pêche, de la chasse. Le jour arrive, il arrive à ses 8-9 ans, et il sait que là, il va faire sa première chasse avec papa. Et donc, il y a quelque chose d'assez... comme une tension là dans le village. On sait que, voilà, première chasse, maman est heureuse. Vous savez comment sont les mamans, hein? Elles le préparent. T'es sûr que t'as tout, chérie, c'est ça, c'est ça. Hein, on peut aller dans le monde entier, les mamans seront toujours les mêmes. Elles se lèvent 3 heures avant tout le monde. Elle pense à tout ce qui va se passer avec un délai parfois de 3 mois. Demandez-moi ce que je fais la semaine prochaine mardi, je ne sais pas. Ma femme, elle sait ce qu'elle fait dans 6 mois, le mardi 15 juillet. Bon, je l'embête. Mais la maman apprête l'enfant, il est prêt, il va y aller, il va aller à première chasse avec son papa. Et alors qu'ils partent comme ça, en fait, l'enfant, il est fier parce que le père, il est connu comme étant celui qui... Vous voyez, celui qui, dans le village, il est reconnu pour être un grand chasseur. Donc lui, il apprend du meilleur. L'enfant, il a quelque chose vis-à-vis de son père. Quand il la regarde, il apprend du grand chasseur, le meilleur. Et puis donc, ils arrivent, ils sont là. Et puis à un moment donné, ils voient un gibier. Et là, le père prend son fils et le met un peu derrière lui. Il dit, bouge plus. Et puis le père lui montre le geste. C'est comme ça que tu dois faire. Pas de bruit. Il est en train de parler, alors que le père est en train de parler, il n'a plus la vision de son fils. Il est juste en train de dire, tu bouges pas, tu te baisses, tu prends l'arc, tu places ta flèche, tu tires, fais pas de bruit, sans faire de bruit, tu tires. Et alors, au moment où le père s'apprête à tirer, il se dit, mais j'entends plus du tout mon fils quand même là. Et donc, il tourne la tête. Et alors qu'il tourne la tête, le père sursaute. Il fait... La flèche qu'il allait tirer part en l'air et il regarde son fils. Il prend un recul. Il attrape un serpent qui était en train de ramper sur la main de son fils, sur le bras de son fils. Tac. Et il le jette loin. Le fils est tout tranquille et il dit, mais papa, t'as raté ta cible. Et le père a un pouls qui est à un niveau. Son cœur bat kapapoum, kapapoum. Le fils, il comprend pas. Il dit, papa, ça va? Le père, kakapoum, kakapoum. Et là, il regarde le fils, il dit, mais t'avais pas vu que t'avais un serpent dans la main, sur le bras? Et le fils regarde son père avec un étonnement, une surprise, il dit, mais si, j'avais vu. Le père, il dit, mais est-ce que t'as pas un problème, toi? Kapapoum, kapapoum, ça redescend pas. Et puis, le fils regarde son père et lui dit, papa, j'avais bien vu le serpent. Mais j'ai pas eu peur, parce que t'es là. En fait, on est tous enfants de Dieu. On est tous aimés de Dieu. On est tous héritiers de Dieu. Mais quand on ne comprend pas la profondeur, la grandeur de l'héritage qui nous est réservé, eh ben on ne vit pas comme des enfants. On vit comme des serviteurs. On vit comme des gens qui ont peur, comme des gens qui ne comprennent pas. Alors je sais que vous, ça ne vous arrive jamais de recevoir un courrier, de voir l'entête du courrier et de dire « qu'est-ce que c'est encore ?» Et puis quand vous ouvrez le courrier, que vous voyez, comment s'appelle déjà ?« Finances publiques ». Allez, on peut en parler, ça y est, tout le monde normalement a rempli sa fiche d'imposition. En fait, il y a des fois où on s'inquiète de certaines choses, on a peur de certaines choses, et on est en stress sur certaines choses parce qu'on n'a pas compris la puissance de l'héritage qu'on a reçu en Dieu. Et ce matin, on va avoir une histoire que vous connaissez tous. On va voir l'histoire de deux fils. Et ces deux fils n'ont pas compris la puissance de l'héritage qu'ils ont en Dieu. Et si souvent on fait le focus sur le fils qui est parti, on parle du fils prodigue, moi j'aimerais faire le focus sur le fils qui est resté. Et du coup, j'ai rebaptisé un petit peu cette parabole. Ce ne sera plus la parabole du fils prodigue, ce sera la parabole du fils aigri. Alors, vous pouvez trouver cette histoire dans Luc 15. Je vais pas le lire, comme ça on va pouvoir échanger, vous et moi, c'est mieux d'échanger. Je pense que vous pourrez aller lire l'histoire tranquillement prochainement. Mais c'est une histoire que vous connaissez, donc on ne va pas la relire complètement. Un fils, le plus jeune, décide de dire à son père, donne-moi toute ma part d'héritage. Je vais partir. Il est plus satisfait du contexte de la maison, avec les règles de la maison, avec ce que le père lui demande de faire, de respecter, il est plus satisfait avec ça. Vous savez, moi, je suis resté assez longtemps chez mes parents, je me suis marié, j'avais 30 ans, et j'ai toujours été chez mes parents avant de me marier. Et il y avait une phrase que ma mère aimait bien dire, hein. 30 ans ou pas, t'es chez moi, hein, Gauthier. Donc chez moi, ce sont mes règles. Vous connaissez ça ou pas? Et c'est vrai que même adulte, même responsable, même travaillant, même étant autonome financièrement, ben vous êtes dans une maison et vous avez des règles à respecter parce que ce sont les règles de la maison et c'est normal. Vous avez des comptes à rendre. Vous ne pouvez pas sortir et rentrer comme vous voulez. La moindre des choses, c'est de prévenir en disant « Bon, je rentrerai un peu plus tard, ne t'inquiète pas. » écoute, je vais dépasser le couvre-feu. Mais il faut le dire, parce que vous êtes dans la maison de quelqu'un. Et ce fils, en fait, il n'a plus envie de dire les choses. Il a envie de vivre sa vie, en fait. Certainement, chez son père, il ne pouvait pas faire des trucs qu'il voulait faire. Parce qu'il n'est pas juste parti pour avoir de l'argent, il est parti pour vivre. Il a vu au loin des choses qui brillaient, des choses qu'il ne pouvait pas toucher, il a voulu aller les toucher de près. Il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Dans cette tradition, quand vous dites ça, le père, vous le tuez. Hein, parce que, en fait, l'héritage, vous ne le touchez pas quand le parent est vivant. L'héritage, vous le touchez quand le parent il est parti. Alors quand il dit ça à son père, le père est un père d'amour. Il regarde son fils, certes il est triste, mais écoute, puisque c'est ce que tu veux, vas-y, prends ta part d'héritage, et il s'en va. Il s'en va, et il va dilapider tout son héritage. On parle de prostitution, on parle de certaines choses, mais il va dilapider tout son héritage. Alors, quand la parabole commence, elle commence en disant un homme avait deux fils. Et ensuite elle dit le plus jeune est parti. À partir de ce moment-là, quand le plus jeune part, il fait tout ce qu'il a à faire, on n'entend jamais parler du plus vieux, donc l'aîné. Et l'aîné, on va en entendre parler à la fin de cette parabole. Et du coup, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus, juste une petite lecture rapide par rapport à l'aîné. Le jour, en fait, où le fils prodigue revient, vous savez, il rentre en lui-même, il y a une famine dans un pays après avoir dilapidé tout son argent, et puis il est dans des conditions terribles. Et il y a une famine qui arrive, et puis en fait, en plus de l'argent qu'il n'a plus, en plus de la famine, il se retrouve vraiment à travailler avec des pourceaux dans la boue des cochons, quoi. Et il se dit, mais j'aurais été tellement mieux chez mon père, les serviteurs chez mon père, ils sont tellement mieux. Ok, je vais faire un plan, je vais rentrer chez mon père, je vais lui demander pardon. Il prépare un discours et tout, je vais lui demander pardon, et puis il m'acceptera au moins comme serviteur. Et puis quand lui, il est en train de revenir et qu'il arrive, vous connaissez l'histoire, le père va courir, aller agripper son fils, vous connaissez l'histoire, vêtements nouveaux, un anneau au doigt, etc., festin. L'autre fils était parti dans les champs. Il était certainement parti dans les champs pour accomplir le travail de son père, le travail de la maison. L'autre fils, en fait, c'est un fils qui est assidu à l'écoute des règles. C'est un fils qui est rigoureux. C'est un fils qui est chrétien, un chrétien de bonne facture. C'est un fils, en fait, quand tu lui dis A, il dit oui, quand tu lui dis B, il dit oui, quand tu lui dis C, il dit oui. Alors moi, j'ai des enfants. Et du coup, j'ai remarqué avec les enfants qu'il y a deux types d'obéissance. Il y a l'obéissance contrainte, celle à laquelle on ne peut pas échapper. Papa a dit, donc je fais. Mais il y a l'obéissance qui n'est pas contrainte, qui est une obéissance d'amour. Parce que tu sais que ton père veut tout ce qu'il y a de mieux pour toi, et parce que tu aimes ton père, tu es dans cette relation d'amour réciproque. Quand ton père te dit quelque chose, tu obéis, pas parce que tu es contraint, mais parce que tu sais que obéir, c'est une façon de rendre à ton père l'amour qu'il te donne. Le fils qui est ici travaille. Il est dans les champs, il travaille. Et je voudrais qu'on se mette dans sa psychologie. En fait, quand il est en train de travailler dans ce champ, il dit « je suis encore là ». Il rumine. L'autre, il est parti. Moi, je suis là. En fait, le fils qui est dans la maison, il a plein de projets, il a plein de rêves. Et vous allez voir dans la suite que ses rêves ne sont pas exceptionnels. Quand il se plaint à son père, ses rêves ne sont pas exceptionnels. Il rumine tout ce qu'il fait. Il le fait de mauvais cœur. Alors je sais que vous, ce n'est pas votre cas ici. Vous êtes des gens qui aimez Dieu passionnément et tout ce que vous faites, vous le faites avec des grands sourires dents blanches Colgate. Quand le pasteur vous voit servir, il se dit « Oh là là, quelle église exceptionnelle j'ai !» Il n'y a que toi qui as dit « Alléluia hein. ». Ouais, faut se poser des questions là. Il y a vraiment cette dimension de contrainte. Il y a une attitude à changer chez ce fils. Il ne le comprend pas, mais il est en train de pourrir de l'intérieur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui en ont déjà voulu à Dieu ? qui en ont déjà voulu à Dieu d'être chrétiens. Mais c'est parce que je suis chrétien que je dois me garder. C'est parce que je suis chrétien que je dois garder ma bouche. Alors quand on est sur Paris, la bouche est encore plus compliquée à maîtriser que quand on est à Toulouse. Ah, je vous assure. Heure de pointe, 18h30, 19h, sortez du bureau. Prenez le RER. Arrivez sur le quai, voyez vos 3 prochains trains supprimés. Alors que vous avez passé une journée de travail, et alors que vous êtes fatigué, alors que vous en avez marre, et que vous voulez simplement rentrer, vous asseoir sur le canapé, et profiter d'un bon cocktail avec votre femme à côté de vous, ou votre mari. C'est la réalité de certains types de vie dans certaines grandes capitales. Et quand le 4e train qui n'est pas supprimé, lui, arrive, vous rentrez dans le train, mais vous rentrez en fait par la fenêtre du train. Et vous êtes rentré par la fenêtre du train et vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas à 1 mètre, qui ne sont pas à 2 mètres, à 3 mètres, qui sont à 5 cm. Et ils sont à 5 cm avec le reliquat de ce que la journée a apporté en termes de stress. Et il y a une effusion de sensations odorante. Et quand je dis ça, l'effusion de sensations odorantes, parfois, elle peut venir de vous-même aussi. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et puis là, malencontreusement, quelqu'un vous marche sur le pied. Mais la journée a été longue, les amis. Alors, quand dans votre tête, vous imaginez la meilleure façon d'insulter cette personne, finalement, vous êtes presque dans votre droit. Parfois, vous inventez des noms d'oiseaux. Moineau d'eau douce. C'est un nom qui passe comme ça. Pigeon d'eau douce. Mais qu'est-ce qui fait ce monsieur ? En fait, à un moment donné, vous avez cette parole de Jésus qui vous arrive, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il y a un déréglage, en fait, au niveau de votre cerveau. Et il y a des moments où vous n'y arrivez pas. Ce jeune fils, il est dans les champs et il est déréglé. Il est déréglé, ça ne fonctionne plus très bien. Je travaille, mais l'autre, il vit sa vie. Combien de fois vous vous dites, en fait, est-ce que j'ai choisi la bonne part ? Moi, je parle à des chrétiens aujourd'hui, de cœur à cœur, en vrai. Arrêtons de faire semblant. Quand vous voyez votre voisin faire la Java, la fiesta, imaginez un petit peu, vous le voyez tous les jours avec une nouvelle voiture, vous ne savez pas d'où vient cet argent. Vous vous dites, mais Seigneur, comment est-ce que tu permets que ce monsieur, on ne sait pas quand est-ce qu'il travaille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, mais vous êtes dans l'envie, dans le truc. Mais en fait, ce n'est pas normal. Vous vous levez chaque matin, vous affrontez votre chef. Quand vous rentrez dans le bureau, vous priez pour que le Seigneur vous permette de faire en sorte que ce soit une bonne journée pour lui. Parce que si c'est une mauvaise journée pour lui, ce sera une mauvaise journée pour vous. Parce qu'il va commencer par vous dire « Et le dossier A, et le dossier B, et le dossier C. » En fait, vous repensez à votre voisin, vous dites « Mais Seigneur !» Et vous pensez à ce passage dans la Bible qui dit « Oui, le soleil brille sur l'insensé comme sur le juste. » Seigneur, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai choisi la bonne part ou j'ai pas choisi la bonne part ? Je suis héritier ou je suis pas héritier ? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Tu me bénis ou tu me bénis pas ? Il y a des gens qui arrivent comme ça et du jour au lendemain... Alors, il y a une vieille histoire dont je me rappelle de quelqu'un comme ça qui, pas chrétien forcément, et puis du jour au lendemain, il gagne au loto, changement de vie. Il y a des fois, tu te dis, mais Seigneur, mais quoi, pourquoi il mérite de... Alors, il y a des fois, on met notre dévolu sur des choses, et souvent, c'est le diable. Alors, c'est comme si on avait un grand périmètre large, et ce grand périmètre large représente notre héritage. Et le diable, il vient avec une loupe, limite avec un microscope, soyons fous. Il vient avec un microscope et il vient te voir. Comment tu t'appelles, ma sœur ? Elena. Le diable vient voir Elena avec son microscope. Et il dit à Elena, alors il met le microscope sur une partie de la vie d'Elena qui la frustre. Ouais, c'est comme ça qu'il agit. Et il vient voir Elena, il dit, regarde. Maintenant, toi, tu regardes dans le microscope. Et quand tu regardes dans le microscope, tu vois vraiment que c'est un zoom, super zoom. On parle en nanomètres. C'est un super zoom de ce qui te frustre dans la vie. C'est comme ça que le diable y fait. Il dit, tu pourrais avoir plus. Et ce serait légitime de vouloir plus. Et toi, en fait, tu te fais prendre au piège de ce zoom qui ne représente pas la totalité de ta vie. Quand tu as compris qui tu étais, quand tu as compris qui était ton Dieu, il y a quelque chose de l'ordre, de l'exceptionnel qui t'attend. Et ton héritage, c'est un héritage qui est puissant et qui est grand. Mais parce que tu restes attentif au zoom que le diable fait sur ce qui te frustre, eh ben, tu n'avances pas. Je ne sais pas combien de temps son jeune frère est parti, mais figurez-vous que pendant tout le temps où son frère est parti, le gars, il a stagné. Il n'a pas avancé. Il en a voulu à son frère d'être parti, il en a voulu à son père de n'avoir rien dit, et il s'en veut de rester là et de continuer, lui, à travailler sous la contrainte. Pas parce qu'il aime son père, pas parce qu'il est conscient de son héritage, mais parce qu'il doit le faire. Le premier point que je veux vous dire aujourd'hui, en fait, sortez de votre état de léthargie. Il est temps de vous réveiller, en fait. C'est comme si Dieu vous avait rédigé un héritage, et cet héritage, il est là, c'est cette Bible-là, ça, c'est votre héritage. Et parfois, vous ouvrez cet héritage, et cet héritage, c'est comme s'il était en chinois. Alors, je voudrais vous donner une information aujourd'hui de la plus grande importance. La Bible a été traduite en français. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut se saisir de son héritage. Sortez de votre état de sommeil. Sortez de votre état de sommeil. La vie à l'extérieur n'est pas mieux qu'ici. C'est ce que le diable voudrait vous faire penser. C'est ce qu'il voudrait vous faire croire profondément au fond de vous. Mais ce n'est pas mieux. Croyez-moi. Et donc le Fils est dans les champs. Verset 25. Lorsqu'il revient, il approche de la maison. Et j'imagine trop le fils. Attendez, vous avez compris que là, il y a une fiesta. Hein. Et la fiesta, elle est pour son frère. Hein. Son frère qui était parti, qui a pris l'héritage de son père, donc qui a tué son père vivant. Vous me suivez ou pas ? Et ce frère qui a tué son père vivant a provoqué une dépression du père. Parce que quand le fils prodigue revient, le père est devant la fenêtre. Il attend. Là, je vais extrapoler un peu bibliquement. Je vais extrapoler un peu la Bible, pardon. J'imagine ce père qui attend. Dans sa psychologie, il est en mode, peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. Vous voyez ce genre de film où vous avez des time-lapse, le temps qui passe, peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. Troisième jour, peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. Un an, peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. Deux ans, peut-être qu'il va revenir. Le fils aîné est témoin de ça. Il est témoin de son père qui espère que son fils revienne. Et en fait, on parle de père, mais aussi on parle de repère. Le fils prodigue, ça ne lui convenait plus le repère que son père lui proposait. Dans cette maison, il n'avait plus de repère. Il avait besoin d'aller se confronter au monde et d'aller trouver de nouveaux repères. Le fils qui est dans la maison, le repère qu'il a, espère, en tout cas, a le regard complètement fixé sur le retour du fils qui est parti. Il se sent délaissé, il se sent oublié. Alors que le père a laissé au fils qui est resté dans la maison l'héritage, il a le rouleau et il a tout le loisir de profiter de ce qui est dans la maison, mais il ne le sait pas, il ne le comprend pas. Donc quand il se rapproche de la maison, il entend la fiesta. Et moi, j'imagine qu'il entend la fiesta en mode... Non. Et en plus, dans la tradition orientale, ils aimaient trop les fêtes. Ils aimaient trop les fêtes, ils aimaient trop danser. La musique, elle est omniprésente dans la Bible. Et à chaque fête, il y a des musiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Rabbi Jacob. C'est à peine exagéré. C'est à peine exagéré. La façon dont ils dansent, etc. Il y a vraiment cette dimension dans la culture orientale. Les danses, etc. C'est, voilà. Il entend la musique et les danses. Il ne rentre pas. Hein. C'est drôle hein, de voir qu'il ne rentre pas. Parce que il se dit, je pense que je ne vais pas aimer. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais je pense que je ne vais pas aimer. En fait, je ne sais pas si on peut analyser cette situation. Vous arrivez chez vous, vous entendez de la musique chez vous et des danses chez vous. Vous rentrez ou vous faites appeler quelqu'un pour vous expliquer ce qui se passe ? Alors, ok, il faut imaginer que vous avez des serviteurs, parce qu'ils ont des serviteurs. Vous rentrez ou vous faites appeler un serviteur ? C'est chez vous. C'est le fils aîné. C'est l'héritier, le prince héritier. Non mais, moi je suis dans un palais, mon père il est roi. J'entends qu'il y a un truc qui se passe. Je suis... Serviteur ! Venez, dites-moi ce qui se passe dans ma maison. Mais le serviteur il va regarder le mec et il va lui dire mais c'est chez vous. Hein. Ben, rentrez. Il y a quelque chose de l'ordre de pas... Il y a un pragmatisme là qui m'échappe. C'est pas logique. En fait, il veut pas rentrer dans la... En fait, il est en conflit intérieur, ce jeune homme. Il est en conflit intérieur. Ce qui va arriver là, ça va pas. Il est en train de dire, franchement, si c'est ce que je pense qui est en train de se passer, je vais plus jamais rentrer dans cette maison et je viendrai plus dans... Et on va le voir, en fait. Le serviteur arrive, verset 26. Et il lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là, c'est que tout le monde dans cette maison, même les serviteurs, connaissent les statuts des enfants de la maison, sauf eux-mêmes. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que à un moment donné, quand je méditais sur le texte, je me suis dit, est-ce que le fait que le serviteur dise ton frère, c'est une provocation ? Parce qu'en fait, en vrai, hein, à partir du moment où il prend sa part de l'héritage, il s'extirpe de la famille, il n'est plus de la famille. En fait, le père, quand le fils revient, il dit « mon fils était perdu ». En fait, ce perdu-là, c'est la mort. C'est mon fils n'était plus là, il n'existait plus, il m'a délaissé, en fait. Et quand le serviteur lui dit « ton frère », il y a quelque chose de l'ordre du « mon frère, mais quel frère ?» Je n'ai plus de frère depuis qu'il a dilapidé la fortune, une partie de la fortune. Vous me suivez ou pas ? Il s'est mis en colère. Il est rentré dans une colère. Et là, on ne parle pas de colère sainte. Hein, parce qu'il y a des colères qui sont légitimes. Là, sa colère, elle n'est pas légitime. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il ne rentre pas. Et qu'il se disait, franchement, si c'est ce que je pense, je ne reviendrai plus dans cette maison. Et effectivement... Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. En fait, il est tellement dans sa frustration, dans son animosité, dans son amertume, qu'il ne se rend même pas compte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce texte, que la parabole s'appelle la parabole du fils prodigue. Le fils aigri, est tellement amer, qu'à un moment donné, il y a un switch de rôle. Il est où le fils ? Il est dehors. Il est où l'autre ? Il est à l'intérieur. À un moment donné, le fils prodigue, c'est le fils aîné qui dit « je ne veux plus revenir ». À un moment donné, celui qui tue le père, c'est le fils aîné qui dit « je ne rentrerai plus, je ne supporte plus, j'en ai marre, je ne comprends pas ». En fait, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Notre place, elle est dans l'Église. ne désirons pas les choses du monde, ne nous conformons pas au siècle présent, nous dit la Bible. Et quand on est dans l'église, en fait, il faut qu'on y soit avec les deux pieds, avec les deux mains, avec les deux yeux, les deux oreilles. C'est notre corps entier, c'est corps, âme, esprit, c'est notre corps, ce sont nos émotions et c'est notre esprit qui est à l'église. Arrêtons en fait de vouloir être comme les autres, de vouloir des rois comme le peuple un jour a voulu un roi comme les autres peuples, comme le peuple a voulu adorer les autres dieux, a voulu prendre les autres femmes des autres peuples. Il y a toujours cet appel de l'extérieur, cet appel de l'exotisme. Moi je veux voir le monde. Moi, je veux voir ce qu'ils proposent. C'est quoi le menu ? Ça m'intéresse. Intéressez-vous au menu que vous propose cet héritage. Parce qu'en vrai, et c'est le deuxième point, si vous restez dans votre amertume, le monde risque de vous étreindre. Si vous restez dans votre amertume, le monde risque de vous étreindre. Ça fait combien de temps que vous venez à l'église ? Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église ? Et ça fait combien de temps que vous vous dites « Ouais, je vais servir, mais bon, faire plaisir au pasteur Nathanaël, hein, parce que je vais servir, hein, mais bon, ça ne me parle pas plus que ça. Hein, écoute. Allez, je vais servir parce que mon père, il vient à l'église, parce que ma mère, elle va servir. Allez, j'accompagne. J'accompagne. » Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui, en fait, qui sont des chrétiens d'eau douce. Ils n'ont jamais connu les grandes étendues d'eau. Ils n'ont jamais connu le grand large. Dieu ne nous propose pas d'être des chrétiens qui vivent, en fait, dans des lacs fermés, qui vivent dans quelque chose qui les frustre. Dieu nous propose d'être des chrétiens qui vivent dans des grandes étendues. Dieu nous propose d'être des chrétiens qui ont un feuillage vert. Un feuillage qui ne flétrit pas quelle que soit la saison. Dieu nous propose d'être des chrétiens qui aiment l'éternel, qui s'appuient sur l'éternel. Dieu nous propose d'être des chrétiens qui construisent leur vie sur le roc, sur Jésus. Dieu nous propose d'être des chrétiens qui sont joyeux. Je vous le dis, je vous le répète, soyez toujours joyeux. Venez à l'église avec le sourire. Venez servir avec le sourire. Venez parce que vous êtes content de votre héritage, content de cet héritage que vous avez reçu, content de ce pouvoir, de pouvoir être appelé enfant de Dieu, parce que c'est ça que vous avez reçu. Le père entend dire que son fils est dehors, l'autre. Il n'est pas au bout de ses peines, le père. Attends, je récupère un fils et l'autre, mais c'est quoi, Seigneur ? Seigneur ! C'est un peu ce que Dieu vit à chaque fois. Il va chercher la 99e brebis, il revient et il y en a 98. Donc il ramène la 90e, il va chercher la 90e qui était en fait la 90e. Vous avez compris ou pas? Ok. Ça va? Dieu, il passe son temps à venir nous chercher. Le père, il sort de la maison, il lui dit, mais... Yo! C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Hein? En bon Congolais qui se respecte... Ni. Hein ? C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Il est où le problème ? Là, c'est le truc un peu qui monte de... Tu vois ? C'est quoi ? Regardez ce que le fils y dit. Son père sortit et le pria d'entrer. En fait, il y a des champs lexicaux dans ce texte qui me bouleversent, en fait. C'est pas Dieu, il vient, il t'attrape et il te dit « viens ». C'est Dieu, il vient, il te dit « je suis à la porte de ton cœur ». Et je frappe. Et il te prie en n'endurcis pas ton cœur. Non, en fait, t'entends ma voix ou tu l'entends pas? N'endurcis pas ton cœur. C'est comme ça que Dieu y parle depuis l'Ancien Testament. Dieu a mis devant nous la vie, la mort. Je vous en supplie, choisissez la vie. Faites le bon choix. Vous aurez toujours le choix, toujours le libre arbitre. Le père, il prie son fils de rentrer. Alors, bon, moi je suis né au Congo, je suis arrivé ici très jeune, donc je suis un déraciné. Et du coup, je ne connais pas grand-chose du Congo. Je suis dans une phase de ma vie où je commence à vouloir un peu renouer avec certaines racines. Oui. Mais j'y étais deux fois entre-temps, mais je n'y connais pas grand-chose. Mais Ayant grandi avec des parents qui font partie de la première vague d'immigration, j'ai quand même été élevé avec des principes très congolais. Alors du coup, les traditions africaines sont très proches des traditions orientales. Et la tradition du père africain, c'est la tradition d'un père qui est le chef. Alors, mais parce que vous allez me dire, mais en France, en Occident aussi. Non, je répète. La tradition du père africain, c'est la tradition d'un père qui est le chef. Ça veut dire qu'il y a vraiment un une tradition patriarcale, pardon. Ce côté très appuyé, très fort. Alors, ça amène certains comportements parfois qui font que un père ne va jamais dire pardonne-moi. Je dis pas que c'est bien. J'ai pas dit que c'était bien. Mais un père, il y a une fierté exacerbée qui fait qu'il ne va jamais se mettre à la hauteur de son fils ou de sa fille. Parfois, même dans les relations de couple, ce sont des caractères qui viennent mettre quelque chose de très déséquilibré dans les rapports. Vous voyez ce côté, on arrive, on s'assoit, on est servi, on se lève, on s'en va, ok ? Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand le père il arrive et qu'il voit son fils et qu'il dit « je te prie », c'est quelque chose qui est contre nature dans cette tradition-là, comme ça l'est dans certaines autres traditions. C'est contre nature. Tu n'arrives pas et tu dis « je te prie ». Tu arrives et tu dis « tu rentres tout de suite, sinon je vais te... » avec ma babouche. C'est ça qui se passe en fait. Ces gens-là, c'est... En temps normal, le père, il sort et il commence à enlever sa ceinture. Non mais c'est vrai. Ce sont ces traditions-là. Ce père, il arrive, en fait, c'est pas normal. Je te prie quoi ? J'ai à te prier, moi ? T'es qui ? T'es mon fils. En fait, t'es sorti de moi. Mon père, il me répéterait ça aujourd'hui. Hein. Alors, mon père est pasteur, mais... Ah, il a gardé quand même quelques... Tu vois ? Il me dirait, écoute, Gauthier... Je te conseille de rentrer tout de suite à la maison, parce que, tu vois, parfois avec un sourire, mais c'est un sourire qui est un sourire profond. Et dans ce sourire, on sent une pointe de quelque chose qui peut, tu vois, ça peut déraper à tout moment. Hein. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Hein. Bon, je rigole. Mais en fait, comprenez l'idée. Le père qui sort et qui prie, en fait, Dieu, il n'est pas trop gentil avec nous, les amis. Combien de fois, en fait, vous délirez à aller à l'encontre de ce que Dieu voudrait que vous fassiez ? Combien de fois vous êtes dans un mood, mais en fait, non, mais écoute, on est libre ! Hein ? Tout m'est permis, hein ? Mais tout n'est pas utile. Mais tout m'est permis, quand même ! Mais tout n'édifie pas. On est dans cette dynamique un peu de, oh, je veux faire ce que je veux vivre ma... Laissez-moi vivre ma vie ! Laissez-moi être heureux ! Et le père, il est là, il voit votre déchéance totale et il n'est même pas en colère. Il est juste en train de vous supplier de rentrer. Je te prie, rentre dans la maison. Alors, ce n'est pas fini parce que le père est en train de le prier, le fils va argumenter, mais il répondit à son père. Vous savez, c'est toujours important dans la Bible de lire et de voir un peu les mots utilisés. Mais, on va faire un peu de français, vous voulez ou pas ? Qui connaît la nature du mot « mais » ? Mais, normalement, si vous avez fait du français, mais c'est une conjonction de coordination. Et cette conjonction de coordination, elle marque l'acceptation, n'est-ce pas ? Ah non, elle marque l'opposition. Vous connaissez cette parole de Pierre ? On va faire un parallèle. Hein. Vous connaissez cette parole de Pierre, enfin de, je crois que c'est dans Luc plutôt, où en fait, Pierre pêche toute la nuit. Vous connaissez cette pensée ou pas ? Entre nous, c'est de ça que je voulais parler, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur depuis vendredi, du coup, de parler du fils prodigue. Pierre a pêché toute la nuit. Et à un moment donné, le matin, le gars, il est fatigué, il n'a pas dormi, Jésus arrive. C'est un peu comme Dieu, ce Père, le Fils, vous voyez, on fait le parallèle, hein, d'accord ? Jésus arrive et il dit, écoute Pierre, on va aller en eau profonde, tu vas jeter les filets. Pierre, il va dire à Jésus, écoute Seigneur, ce que dit Pierre, texto, c'est ça. Écoute, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. J'aime beaucoup ce qu'en ont fait les films, parce que les films en ont fait quelque chose de... C'est une parole de foi. J'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Moi, je me suis assis, j'ai lu ma Bible, et je me suis dit, mais pourquoi il y a un mais alors ? Parce que le mais, c'est une conjonction de coordination qui marque l'opposition. Ça veut dire que ce qu'il dit avant, ça ne va pas avec ce qu'il dit après. S'il avait dit, j'ai péché toute la nuit, et sur ta parole, je jetterai les filets. Et bon, ben, on est dans une suite, bon, éventuellement, c'est une conjonction de coordination différente. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais non, c'est mais ! Alors moi, je vais paraphraser ce que Pierre dit. C'était quoi le métier de Pierre ? Pêcheur. Il a pêché toute la nuit. Vous savez pourquoi on pêche la nuit ? Hein ? Alors, parce que les poissons sont en surface, d'une part. Alors non, les poissons ne dorment pas. Mais, parce que je viens de l'entendre. Non. Ouais. Non, les poissons sont en surface et en fait, il n'y a pas de bruit. Allez au lac. Quand vous passez là, que vous êtes en train de rigoler et que les enfants courent partout et qu'il y a le pêcheur qui... Le pêcheur, il a besoin de calme, parce que sinon, on effraie les poissons. Pierre, il est pêcheur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jésus ? Écoute, Seigneur. Moi, je suis pêcheur. Hein ? C'est mon métier. Toi, t'es fils de charpentier, c'est ça ? Tu travailles le bois ? À la limite, tu pourrais faire une canne à pêche. Hein, hein ? Non, mais... C'est ce qu'il est en train de dire à Jésus. Il dit à Jésus, je m'y connais. Je sais quand est-ce qu'il faut pêcher. Tu veux pêcher de bon matin comme ça ? Avec les coqs qui chantent, les gens qui marchent, les gens qui chantent. Mais Seigneur, c'est ça qu'il dit. J'ai pêché toute la nuit. J'ai pêché quand il fallait pêcher. J'ai pêché au moment où il fallait pêcher. Mais, bon, puisque tu le dis, et que parfois... par un coup de chance, tu vois, ce que tu dis, ça fonctionne. Mais c'est ça qui se passe, en fait. Et puis, il va jeter le filet, il va obéir. Et c'est le même mec qu'on a ici, c'est le même mec qu'on a ici. C'est le fils qui dit, mais il répondit à son père, je suis pas d'accord avec toi, j'ai pas envie d'être d'accord avec toi, et je vais argumenter pour que tu comprennes. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Écoutez le champ lexical, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. C'est pas pour venir briser le cœur du Père. Il pouvait pas dire il y a tant d'années que je t'aime. Il y a tant d'années que je travaille avec amour pour que ton héritage soit préservé. Il aurait pu avoir de l'amertume pour son frère, mais pour d'autres raisons. En disant, mais non, mais moi, papa, je veux travailler dans la maison pour toi. Je veux rester dans la maison pour toi. Je veux être dans la maison pas pour servir. Un enfant, il ne sert pas dans la maison. C'est les enfants, en fait, génération 3.0. On leur demande de laver une assiette. Une assiette ! Je suis esclave ! Moi, je vais vous envoyer des films sur l'esclavage, vous allez voir ce que c'est. Je suis esclave ! Il est dans une maison climatisée. Il dort dans un lit king size ! Il a une PlayStation 6 et on lui demande de laver une assiette. Je suis esclave. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. En fait, vous regardez les autres et vous les voyez faire n'importe quoi. Il joue au loto, il gagne, il a une nouvelle voiture tous les jours, il a 40 femmes, il est polygame. J'ai jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Son rêve. Pause. Depuis le début, son rêve, c'est un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Franchement, vous pensez que ce père, avec tout ce qu'on sait de l'héritage qu'il a pu donner à son fils arrive, bam, bam, comme ça, aléatoirement, il prend une vache grasse, bam, 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 un nouveau vêtement, un anneau au doigt. Le père, vous pensez qu'il est pauvre ? C'est pas une vache grasse. Lui, son rêve, c'est un chevreau. Un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Écoutez comment il est amer. Et quand ton fils, c'est pas mon frère, ton fils, celui pour lequel je t'ai vu attendre à la fenêtre là, pendant que tu étais déprimé, lui, il s'amusait. Ton fils. Ce jugement qu'on a parfois sur les gens qui sont à l'extérieur, qu'on devrait aimer, ton fils. Parfois, c'est même dans les couples. Hein. Vous savez, les couples où vous avez quelqu'un qui est plus investi que l'autre. Regarde, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, le mari que tu m'as donné. Tu peux même pas prier 2 minutes avec moi. Ton fils. Non, je veux vraiment que vous puissiez réaliser à quel point c'est enfin, je me mets à la place du Père et j'ai honte. J'ai honte d'avoir été un jour ce fils. D'avoir un jour désiré le monde, d'avoir un jour pensé que j'aurais été mieux ailleurs. Il y a toujours cette pensée qui arrive à un moment et tu te dis, et si ? Bon, pas vous. Hein. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, je ne sais pas comment il était au courant de ça. Sans doute quelque chose qu'il a supputé, subodoré, je ne sais pas. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et on va finir ensemble avec la réponse du Père. Il y a quelque chose chez le Père qui est fondamentalement beau. C'est que quand quelqu'un vous parle en disant « ça fait tant d'années que je te sers », normalement, quand le Père répond, il doit se mettre au niveau. Il doit dire « ah, tu me sers, d'accord ». Donc il devrait commencer sa phrase par dire « mon serviteur ». Le Père commence sa phrase en disant « mon enfant ». Ce matin, aujourd'hui, le Seigneur, il remet un cadre dans la relation que vous avez avec lui. Il est en train de vous dire « non, en fait, tu ne me sers pas. Tu es mon enfant. Non, en fait, tu n'es pas à mon service. Tu es mon héritier. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien être heureux et se réjouir parce que ton frère, qui était mort, ce que je vous disais tout à l'heure, est revenu à la vie. Ton frère, pardon, qui était perdu, est retrouvé. Je reviens sur cette histoire que je vous racontais au tout début. Moi, j'ai toujours aimé cette tradition du griot. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ces histoires qu'on racontait qui avaient beaucoup de sens. Cet enfant, en fait, il a vu le danger sur son bras. Il savait qu'il y avait une situation compliquée sur son bras. Et en sortant de ce lieu, il y aura sans doute des serpents, je parle de façon spirituelle, sur vos bras. Des choses qui viendront pour vous déstabiliser, pour vous mettre en difficulté. Mais si vous êtes les enfants du Père, si vous êtes les enfants de la maison, si vous savez que tout ce qui est à la personne, au Dieu qui est à vos côtés, est aussi à vous, vous n'aurez pas peur de cette déstabilisation. Contrairement à l'histoire que je vous ai racontée au début, Dieu est juste là, omniscient, omnipotent. Il ne va pas rater sa cible. Dieu vous accompagne. Il marche avec vous. Arrêtez de vous considérer comme des serviteurs. Arrêtez de vous considérer comme des personnes qui sont là pour faire, pour travailler, le labeur contraint. Considérez-vous comme des enfants qui sont aimés, adoptés, justifiés, pardonnés, co-héritiers de Christ. Je voudrais qu'on ferme les yeux ce matin. Et je pense pas que je ferai d'appel. Je pense pas que je ferai d'appel parce que si je devais faire un appel, je pense que tout le monde pourrait en fait se sentir visé et tout le monde pourrait avancer. Parce qu'on a tous des moments de haut, de bas, qu'on soit leader de louange, pasteur, responsable, diacre, ancien, tout ce que vous voulez. On a tous des moments où on se dit, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que j'ai choisi la bonne part ? On se pose tous ce genre de questions. Et on a tous ce moment où on regarde ailleurs et on se dit, mais regarde lui, mais comment ça se fait que quelqu'un comme lui, mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, bénis-moi aussi. Moi, je demanderais simplement à chacun de mettre la main sur son cœur. Et on va faire une prière. Vendredi soir, quand on a eu le temps de louange, j'étais dans une direction et je n'ai pas forcément tout de suite compris quand je réfléchissais au message pour ce matin. Je voulais aller entre guillemets sur des choses, sur d'autres choses. Le Seigneur m'a rappelé ce temps de vendredi et cette dimension du fils prodigue dont on a parlé à un moment donné. Il m'a dit, ouais, cette pensée, c'est la pensée que tu vas donner à mon église aujourd'hui. Et il y a une prière que Jésus nous a laissée, qui est une prière pour moi fondamentale, parce qu'elle nous positionne en tant qu'enfants. Et c'est une prière que j'aimerais vous laisser à vous, Église Horizon, cette prière du Notre Père. Le Notre Père nous positionne en tant qu'enfants du même Papa, du même Dieu, Notre Père qui est dans les cieux, le Dieu très haut. Cette prière, elle vient acter le fait que nous voulons que le nom de Dieu soit sanctifié. Sanctifié, c'est saint, mis à part, qu'il soit en fait à part de tout le reste. On l'élève, on l'exalte. Que ton règne vienne. Tu dis en fait au Seigneur, viens régner en moi. En fait, tu dis au Seigneur, je ne vais plus dire des mais. Avec toi maintenant, il n'y a plus de mais. Il n'y a plus d'opposition. Avec toi maintenant, c'est du oui, c'est du amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'arrête les mais sur la terre comme au ciel. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien. Fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi comprendre comment tu agis, comment tu me parles, comment tu te manifestes. Fais-moi comprendre mon héritage pour que je puisse saisir, Seigneur, que je suis à la bonne place, que j'ai choisi la bonne part. Fais-moi comprendre, Père. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que oui, en fait, on est tellement médisants parfois les uns avec les autres, que c'est important de passer par cette étape du pardon. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Après, vous connaissez la fin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble. Je demandais à Solène si elle veut bien venir. On va faire cette prière ensemble. Et on va juste chanter un chant qui est comme un témoignage, en tout cas un positionnement plutôt, qui veut simplement dire, je rends les armes et je choisis simplement de te dire oui. Je rends les armes et je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te laisser toute la place. Et quand on va finir ce chant, on va faire le Notre Père. Et quand on aura fait le Notre Père et qu'on se sera positionné après ce chant, on va prendre ensemble un festin. Le festin des enfants de Dieu. Voyez ça comme un veau gras qui est préparé, découpé pour tous les enfants de Dieu qui ont compris leur héritage. Alors je vous demande de fermer vos yeux. C'est un chant que vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment vivre les paroles et vous laisser porter par ce chant comme si ça devenait votre témoignage. Tous enfants de Dieu, on peut l'acclamer, ouais.
Alléluia, j'invite mes sœurs, mes frères pour la Sainte Cène à s'approcher. On va prendre ce pain, ce festin comme il a été dit. Et je vous propose qu'on puisse le faire à la hauteur d'une fête, où les invités, lors du repas des noces, mangent l'entrée ensemble, le plat ensemble et le dessert ensemble. Et vu que nous sommes dans un temps de fête, un repas de fête, j'aimerais que nous puissions prendre ce pain et ce vin ensemble. Que ça soit dans une dimension de « je m'associe ». C'est pas l'autre là-bas, ce fils pour qui le veau gras a été tué, mais nous sommes un corps, membres d'un même corps. Et j'aimerais que le service puisse commencer et que vous puissiez prendre le pain et le vin avec vous. Et nous prendrons le pain ensemble et nous prendrons le vin ensemble. Si le service peut commencer, mes frères et sœurs. Alléluia. Et on dit merci au Seigneur pour ce temps-là. Alléluia. Un temps de fête, mes amis.
Yes.
Nous entrons dans la maison. Le Père est là. Il nous y invite. Alléluia.
Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. 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 Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Appelez ses enfants, il nous a appelés ses enfants, il nous a appelés ses enfants, il nous a appelés.
Je vous propose, avant qu'on puisse prendre ce pain, de considérer, comme la Bible nous dit, le corps de Christ. Regardez autour de vous. Voici quelques cellules et membres du corps. Regardez, on va prendre le pain ensemble. On peut se regarder les uns les autres. Alléluia. On est membres d'un même corps. Regardez. Examinons nos corps, nos cœurs, pardon, et bénissons le Seigneur de la grâce qu'il nous fait de nous donner une famille. Alléluia. Prenons ce pain tous ensemble et célébrons Dieu pour ce corps. Alléluia. Et prenons ce vin, ce fruit de la vigne, cette alliance nouvelle, un nouveau départ, une unité, une alliance. Nous sommes membres les uns des autres parce que nous l'avons choisi de faire alliance avec Christ. Prenons ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait bénir le Seigneur ? Louer Dieu pour le corps de Christ. Dis-lui merci simplement là avec tes mots et on le fait ensemble. On unit nos voix à celles des anges. Nous adorons sa majesté parce qu'il a fait un corps. Nous sommes dans sa maison ce matin. Jésus, merci pour mes sœurs, mes frères. Merci pour cette grâce, pour la bénédiction qu'ils sont pour moi, comme je veux l'être pour eux. Seigneur, Dieu, quelle grâce! Tu nous as donné un corps. Tu nous as donné une famille. Alors à toi soit la gloire. Merci, mon Jésus. Nos voix s'élèvent. Célèbre le ressuscité, celui qui nous a donné un nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms, qui nous a amenés, qui nous intègre, qui nous partage son héritage. Oh, nous bénissons ton nom, de ce que tu nous inviteras toujours à entrer dans ta Alléluia. Maison. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Oh, shurabadanoloden de lesu. Oh, merci pour la louange des rachetés.
Alléluia.
Alléluia. Toi qui as dit merci pour le corps. Dis merci pour ton nom inscrit dans le livre de vie. Dis merci pour le souffle de vie. Fais éclater ta louange ce matin. Fais résonner ce lieu de cette louange. Accueille le roi par ses louanges. Bénis-le. Bénis le roi des rois. Celui qui a dans sa volonté fait un corps, un peuple, une famille. Oh, qui nous amènera avec lui pour l'éternité. Bénis son nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Vu qu'on est dans un temps de louange, peut-être que le Saint-Esprit a mis une pensée sur ton cœur. Peut-être on pourrait prendre ce temps de réjouissance, de fête pour être des canaux de bénédiction. Parce que si le Seigneur a mis les dons spirituels dans l'Église, c'est pour que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres. Et Dieu veut peut-être se servir de toi. Ce matin, il t'a parlé et tu n'oses pas encore donner. Je t'invite à prendre courage, à être fortifié et à donner, délivrer cette parole pour l'Église. Ce sera peut-être pour une personne, pour le corps en entier. Mais Dieu t'invite à bénir par cette parole que tu as reçue. Oh Jésus.
Jésus, donne. Je suis ton berger et je suis venu te chercher.
Oh Jésus. Nous avons un Dieu patient. Un Dieu qui renouvelle ses bontés à notre égard chaque matin. Un Dieu qui vient nous chercher. Un Dieu qui veut sécher les larmes. Donc un Dieu qui a son regard sur nous. Qui sait ce dont nous avons besoin. Et Dieu a clairement parlé ce matin pour te rappeler quel prix, quelle valeur, qui tu es en lui. Amen. Amen. Avant de clôturer notre culte, j'aimerais vous partager quelques annonces, quelques informations. On prendra un dernier cantique de réjouissance où nous allons simplement, et vous le savez, dans ce temps de clôture, quand ce chant d'envoi, c'est aussi un chant où nous repassons, et comme ce cantique nous disait, compte les bienfaits de Dieu. Et je le dis, vous aurez donc la boîte à offrande à disposition en sortant. On donne avec joie pour l'œuvre de Dieu parce qu'il a tout pourvu. Et nous voulons le faire dans la joie d'avoir vécu sa présence. Amen. Donc vous aurez l'occasion.